Votation.
Le débat, on vous l'a promis, et bien c'est maintenant avec vous Isabelle Queloz et Audrey Fasnard. Bonjour.
Bonjour et bienvenue à notre second débat en vue des votations fédérales du 18 mai en direct sur RFJ et RJB. Le peuple suisse est appelé à se prononcer sur l'initiative des salaires minimums dans une dizaine de jours. Pour en débattre, nous recevons aujourd'hui deux intervenants dans nos studios. D'un côté, Loïc Dobler, président du Parti Socialiste Jurassien et l'un des instigateurs de l'initiative cantonale Un Jura au salaire décent. Face à lui, nous accueillons Jean-Frédéric Gerber, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du canton du Jura, qui fait partie du comité jurassien Non au salaire minimum. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors l'initiative lancée par l'Union syndicale suisse et UNIA demande un salaire minimum légal de 22 francs de l'heure, ce qui correspond à peu près à 4000 francs par mois. Le texte a pour but de combattre la pauvreté et la sous-enchère salariale. Loïc Dobler, le principe d'un salaire minimum, c'est l'un des chevaux de bataille du Parti socialiste jurassien. C'est une idée que vous avez vous-même défendu au niveau cantonal depuis 2008. Est-ce que finalement en Suisse on est si mal loti en matière de salaire ?
Alors globalement, je ne pense pas que les gens soient mal lotis, mais par contre, il y a toute une catégorie de salariés dans ce pays qui sont extrêmement mal lotis. On estime environ 330 000 personnes le nombre de travailleurs qui gagnent moins de 4 000 francs par mois et qui donc ont du mal tous les mois à s'en sortir. Et d'ailleurs, une statistique intéressante qui est sortie récemment qui démontre qu'un salarié sur 5 dans ce pays est incapable de faire face à une dépense qui serait imprévue, tout à coup une facture de dentiste ou quelque chose comme ça. Donc un salarié sur 5 dans ce pays qui est incapable de faire face à un imprévu financier qui s'opposerait à lui.
Vous venez de le dire, un travailleur sur 10 touche moins de 4 000 francs par mois, donc environ 330 000 emplois, selon les chiffres du secrétariat d'État à l'économie. C'est acceptable ça, Jean-Frédéric Gerber ?
Alors, on a décrété que 4 000 francs c'était un salaire indécent, alors que dans tous les salaires, il y a des fourchettes. Il y a des salaires plus élevés, des salaires moyens et des salaires plus bas. D'accord. Donc la référence dont on fait, c'est une valeur statistique qui correspond à 2/3 du salaire médian. C'est ça, les 4 000 francs. Je vous rappelle quand même qu'à l'étranger, on a introduit des SMIC. On a pris des pourcentages beaucoup plus moins importants du salaire médian, qui se situe entre 40 et 50%. Donc on en arrive là avec des bas salaires qui sont quand même des salaires pour certaines branches économiques qui sont proches des salaires médians que eux ont déjà actuellement et qui va poser un certain nombre de problèmes pour les branches à plus faible valeur ajoutée.
Alors en tant qu'opposant, vous ne contestez pas forcément l'idée d'un salaire minimum, mais ce qui vous dérange, c'est plutôt qu'il soit généralisé et fixé par l'État.
Oui, parce que traditionnellement en Suisse, la fixation des salaires est du ressort des entreprises et des partenaires sociaux. Donc avec l'initiative, on va rompre fondamentalement avec ce système et introduire des rigidités. Donc on risque d'avoir quand même des conséquences relativement importantes avec le changement de système de fixation des salaires qui sera totalement délégué à l'État s'agissant des salaires d'embauche. Et le problème que pose cette initiative, c'est pas tant le principe du salaire minimum en tant que tel qui existe dans les conventions collectives, c'est qu'on veut appliquer un salaire uniforme et rigide à toutes les branches économiques, indépendamment de leurs possibilités économiques.
Alors justement, dans l'initiative cantonale jurassienne, par exemple, il existe une différenciation par branche en fixant un salaire minimum selon un pourcentage du salaire national médian. Ce n'est pas le cas dans cette initiative nationale qui, d'ailleurs, selon le sondage SSR du 11 avril, est donnée perdante avec près de 35% de non. Est-ce que ce n'est pas ça finalement qui pêche dans l'initiative nationale, Loïc Dobler, l'absence de différenciation par branche ?
Bon, écoutez, moi, tout d'abord, je suis un peu interpellé par ce que vient de dire M. Gerber, parce qu'effectivement, on parle du partenariat social un peu dans une vision romantique des choses. Moi, je participe activement à ce partenariat social en tant que syndicaliste, que ce soit auparavant chez UNIA ou maintenant chez Syndicom. Et on se rend compte qu'il y a un salarié sur deux dans ce pays qui n'est pas couvert par une convention collective de travail. Et ça, c'est la réalité du terrain. Et c'est pas simplement des grandes déclarations sur qui souhaite finalement renforcer ou non le partenariat social. Moi, en tant que syndicaliste, bien sûr que je souhaite renforcer le partenariat social. C'est une évidence. Mais par contre, pour toutes les personnes qui ne sont pas soumises à une convention collective de travail, il est aujourd'hui prioritaire de garantir un minimum qui permette de vivre décemment dans toutes les régions du pays et dans toutes les différentes branches d'activité.
Donc, selon vous, est-ce que l'introduction d'un salaire minimum, ça favoriserait la signature de nouvelles conventions collectives de travail ?
Bon, écoutez, ça c'est difficile à dire, et je crois que on serait malhonnête de dire dans un sens ou dans l'autre que ça va permettre de conclure de nouvelles CCT ou non. Par contre, ce qui est certain, c'est que les conventions collectives de travail ne règlent pas uniquement la question du salaire minimum. C'est d'ailleurs un discours qu'on entend souvent chez les opposants, c'est de dire si il y a un salaire minimum qui est introduit, eh bien il n'y aura plus de raison de signer des conventions collectives de travail. Moi, je prends juste l'exemple de la convention collective de l'horlogerie, qui est quand même une des conventions les plus connues dans la région, avec environ une cinquantaine de pages, et qui règle toute une série de mesures, telles que les vacances, la durée du temps de travail, la retraite anticipée, la formation continue, la participation du personnel, les éventuels plans sociaux qu'il peut y avoir, et puis également et surtout, et je crois que ça c'est important, et pour les entreprises et pour les salariés, finalement la paix sociale. Et je crois que on oublie un peu souvent que ces conventions collectives de travail règlent la paix sociale dans ce pays, et je crois que ça, on y est attaché, que l'on soit du côté patronal ou syndical.
Alors pour vous, Jean-Frédéric Guerrebert, ça mettrait justement un peu à mal ce partenariat entre patron et syndicat ?
On peut en discuter, mais il est clair qu'on va leur ôter un élément matériel important que sont les salaires. Des discussions, des conventions. Or, la notion de salaire est importante pour les entreprises. On doit y tenir compte de la diversité des secteurs et des branches d'activité. Donc il y a un élément essentiel qui serait enlevé du dialogue social. Donc ça va forcément le fragiliser d'une certaine manière ou d'une autre, ou à tout le moins, je veux dire, de limiter son intérêt. Et c'est pas le moindre des paradoxes de cette initiative qui souhaite l'encourager.
Juste peut-être sur ce point, parce qu'on dit qu'on va enlever un point essentiel si l'État met un salaire minimum. Je vous rappelle quand même qu'il existe dans la loi sur le travail une indication quant à la durée hebdomadaire du temps de travail, qu'il existe dans la loi fédérale un nombre de vacances également, et pourtant ce sont tous des éléments que l'on a quasiment dans chaque convention collective de travail qui sont discutés. Donc on ne peut pas dire que parce qu'il y aura un salaire minimum légal, on ne discutera plus de ces éléments dans le cadre de conventions collectives de travail.
Alors juste peut-être les domaines où, selon les opposants, il pourrait s'avérer difficile de verser des salaires de 4000 francs par mois. On peut citer notamment par exemple le commerce de détail, l'agriculture ou bien encore les services dits personnels comme les salons de coiffure. Et nous avons joint justement par téléphone la vice-présidente de l'association Coiffure Suisse, Evelyne Schneider, qui craint que certaines conséquences négatives voient le jour en cas d'acceptation de l'initiative. On l'écoute.
La concurrence sera plus rude. Ça, c'est certain, parce que les plus grands salons qui forment, qui ont beaucoup d'employés, ont beaucoup plus de charges qu'une personne qui travaille seule, parce que faut pas rêver. Chez nous, on a quand même bien des gens qui ont aménagé un local chez eux, qui comptent pas leurs charges, et puis avec ça, ils font des prix défiant toute concurrence. Et puis, c'est vrai que les employés qui n'arrivent pas à atteindre un chiffre au bout d'un moment, ils risquent d'être licenciés. Ou on leur baisse leur temps de travail, qui revient au même, finalement.
Et puis, une autre branche qui redoute le oui le 18 mai, c'est celle de la restauration et de l'hôtellerie. On écoute le directeur de Gastroconsult, fiduciaire pour l'hôtellerie et la restauration de l'Arc Jurassien, Jean-Louis Lozé.
On ne pourra plus engager du personnel qualifié, donc l'hôtellerie et la restauration ne pourra plus se permettre de payer ces gens-là. Et puis on peut faire un coup de bluff, comme l'a fait les grands magasins Lidl et consorts, qui ont dit oui, on passe au salaire supérieur à 4000 francs, mais sur 10 personnes, on a modifié les contrats de 8 personnes, qui sont passés d'emplois à plein temps à des emplois à temps partiel. Donc c'est ce qui risquerait d'arriver dans la restauration, c'est que finalement, on ne peut plus se permettre de payer des salaires aussi élevés, donc on va transformer ces emplois à plein temps en emplois à temps partiel, et puis les entreprises n'ont pas le choix, elles devront exiger la même productivité en moins d'heures de travail.
Alors, après avoir écouté ces deux extraits, Loïc Dobler, n'est-ce pas utopique d'espérer ce salaire pour tous ?
Alors, utopique, je ne sais pas. C'est le peuple suisse qui le décidera le 18 mai prochain. Il ne m'appartient pas de le décider. Mais par contre, c'est vrai que c'est des éléments qui sont intéressants qu'on vient d'entendre. Mais je crois quand même qu'il faut préciser un certain nombre de choses, notamment sur la convention collective de la restauration, puisqu'il y a été fait allusion, et puis sur le fait qu'éventuellement, on n'arriverait pas à assumer dans cette branche un salaire de 22 francs de l'heure, parce que c'est aussi ça qui est important. Il ne faut pas seulement se concentrer sur le montant de de 4000 francs, il faut savoir que dans l'hôtellerie-restauration, le salaire minimum le plus bas en 1998 était de 2350 francs par mois en 1998. En quelques années, on est arrivé à 3400 francs et on y a ajouté un 13e salaire. Donc on voit qu'avec ce 3400 francs par mois avec 13 salaires, on n'est pas très loin du 4000 francs pour 42 heures fois 12, parce qu'il faut aussi rappeler ça, c'est que l'initiative sur laquelle nous nous prononçons n'aborde pas la question du 13e salaire, elle est bien sur 12 mois, et donc on est très proche de ce qui se pratique actuellement dans l'hôtellerie-restauration. Et puis, j'ajoute qu'effectivement, il pourrait y avoir une petite augmentation de prix dans certaines branches. Une étude a par exemple montré que pour l'hôtellerie-restauration, on pourrait estimer que le prix d'un café pourrait augmenter de 10 à 20 centimes. Eh bien, c'est un choix auquel on est confronté. Moi, personnellement, je fais le choix de dire je suis prêt à payer 10 à 20 centimes de plus pour que la serveuse qui travaille dans le bar ou le restaurant où je consomme mon café puisse avoir un salaire de 4000 francs. C'est un choix personnel, c'est un choix politique, et puis chacun est à même de faire ce choix. Moi, j'ai fait le mien.
Jean-Frédéric Gerber, peut-être, on vous laisse réagir.
Oui, écoutez, je crois qu'il reste quand même une évidence, c'est que le seuil plancher qui est proposé par l'initiative est extrêmement élevé. Il est le plus élevé du monde. Le plus élevé du monde. Et on peut prendre toutes les échelles de comparaison que l'on souhaite en chiffre absolu. Alors on peut tenir compte du coût de la vie en Suisse qui est plus élevé. Mais même si on le compare en pouvoir d'achat, si on tient compte du coût de la vie, et surtout si on se réfère au salaire médian, on aura forcément pour certaines branches des difficultés. Ils devront consentir des adaptations salariales importantes.
Alors, on l'a dit, hein, une personne sur 10 gagne moins de 4000 francs par mois. Alors, comment on vit en Suisse avec un tel salaire? On a rencontré un employé d'une PME du Jura bernois, actif dans l'alimentaire et qui touche 3500 francs bruts. Il a souhaité rester anonyme, mais il témoigne de ses conditions de vie. On l'écoute.
C'est pas facile, c'est sûr. On est obligé de pratiquer les systèmes D. On fait des coupes partout. On n'a pas de loisirs. On se prive au maximum pour faire plaisir aux enfants. Je subis cela moralement, mais je m'arrange pour que mes enfants ne sentent pas cela. Et donc, je fais un effort. Mais ce sont les privations que je fais, moi et mon épouse, pour satisfaire au moins les enfants, pour qu'ils ne soient pas mis en marge par rapport à leurs camarades d'école. Mon salaire, il sert finalement à payer la maison, les assurances, et après, j'ai rien. Finalement, c'est ça. Une fois que ça arrive, ça part directement. Quelque part, je me dis, bon, ok, je travaille, mais je travaille pour quoi finalement? C'est pour survivre, peut-être. Je travaille, chaque matin, je me lève, je rentre, mais je n'ai pas de projet à faire. Je suis trop limité, finalement. Je ne peux pas me projeter dans l'avenir.
Alors Jean-Frédéric Gerber, vous parlez de salaire trop élevé, mais finalement, est-ce que c'est normal qu'une personne qui travaille à temps plein ne parvienne pas à joindre les deux bouts à la fin du mois?
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça, mais on confond deux éléments. On confond la notion de salaire, qui est liée à une contre-prestation d'un travail effectué, avec le revenu disponible d'un ménage. Bien souvent, dans les ménages, on a deux salaires. Donc, ce qui atténue un petit peu les choses. Puis je crois que sur le plan social, on a quand même un système qui permet, par les transferts sociaux, de pouvoir venir en aide à certaines personnes, mais on le fait déjà au niveau des impôts, hein, puisque la plupart des personnes qui bénéficient d'un salaire plus faible payent comparativement moins d'impôts. Je vous rappelle aussi qu'au niveau des entreprises, elles assument aussi totalement leur politique sociale. On oublie trop qu'à côté du salaire de base, au niveau des familles, il y a quand même des allocations familiales qui sont versées. Et dans le canton du Jura, elles sont assez substantielles. Hein, si, de tête, il me semble que c'est 250 francs par mois et par enfant, 300 francs pour un jeune qui est en formation. Donc ce sont des compléments de salaire importants. Dans certaines conventions collectives, certaines entreprises prennent en charge partiellement les primes d'assurance maladie. Donc, le salaire ne peut pas être comparé à un revenu d'un ménage. Alors, 4000 francs, ça pourra suffire pour certains, mais 6000, 8000 francs ne suffira peut-être pas non plus. Donc, le salaire minimum ne va pas régler ces questions-là.
Alors vous avez parlé des subventions, des allocations. Une conséquence également de ces bas salaires, c'est que de nombreux foyers en Suisse doivent recourir à l'aide sociale. Alors là, Jean-Frédéric Gerber, est-ce que c'est à l'État de compenser les salaires trop bas?
Alors écoutez, là on en vient à la précarité et au désarroi de certaines personnes. La première chose qu'il faut dire quand même, quand on lit les statistiques, c'est que la précarité est plus forte chez les gens qui n'ont pas de travail que chez les gens qui ont un travail. Et bien souvent, un salaire faible est un salaire temporaire. Pour peu que la personne soit réinsérée sur le marché du travail, elle va forcément évoluer et puis sortir un petit peu de la, du salaire initial qu'elles avaient. Le drame qu'il y a un petit peu avec l'initiative, c'est que le seuil plancher est tellement élevé que d'une part, ça aura des effets économiques, puisqu'on va, inciter, et puis là, vos intervenants l'ont parfaitement expliqué, donc pour eux, ce sera un salaire d'emblée à l'embauche qui sera élevé, donc elles devront prendre un certain nombre de mesures. Réduire leurs effectifs, éventuellement modifier les contrats de travail.
Alors justement, Loïc Dobler, est-ce que finalement, en voulant lutter contre la précarité avec l'instauration d'un salaire minimum, on risque pas certains effets pervers, un nivellement des salaires vers le bas, un chômage supplémentaire ?
Ça fait beaucoup de choses qui viennent d'être abordées par Monsieur Gerber, donc je ne sais pas si j'arriverai à répondre à tous ces éléments. Mais quand on écoute Monsieur Gerber, on a l'impression que finalement les gens qui commencent de travailler, en l'occurrence des jeunes, parfois sans qualification, eh bien commencent avec un salaire qui est plutôt bas, et puis qui celui-ci évolue avec le temps. Et puis si c'était la situation sur le terrain, on pourrait se dire, ben effectivement, c'est pas si grave que ça si pendant quelques années on a un salaire qui est plus bas. Mais la réalité, sur les 330 000 personnes qui gagnent moins que 4 000 francs, c'est qu'il y a 70% qui sont des femmes. Je ne pense pas que ça peut être considéré comme du hasard. Il y en a 77% qui ont plus de 25 ans, et puis il y en a un tiers qui sont au bénéfice d'un CFC. Donc on ne peut pas dire simplement c'est des gens qui commencent de travailler, qui ont des bas revenus, parce que les statistiques démontrent clairement le contraire. Et puis on évoquait le fait que ça soit un des salaires minimaux les plus hauts du monde. Alors, peut-être, mais c'est contestable sur le salaire médian. Certains pays ont fait des choix encore bien plus élevés, mais il faut aussi dire, et c'est d'ailleurs sorti ces derniers jours, que le coût de la vie est le plus élevé au monde en Suisse avec la Norvège. Donc c'est pas par hasard que ce salaire serait relativement élevé, c'est parce que le coût de la vie en Suisse est tout simplement considérable. Et puis, une dernière chose, c'était intéressant d'entendre le salarié qui disait qu'effectivement il se privait de beaucoup de choses. Eh bien, c'est ça aussi qui est important dans cette initiative, c'est que si cette personne, à partir de l'année prochaine, gagne 4 000 francs par mois, cet argent-là, elle ne va pas l'épargner, elle va l'utiliser pour des loisirs, elle va de temps en temps aller au restaurant, etc. Donc, on va l'utiliser dans l'économie directe, avec de la consommation directe, qui va permettre aussi de faire tourner certaines entreprises, et d'ailleurs, les entreprises qui seront peut-être le plus concernées par le salaire minimum. Et puis, quand même sur les coûts d'aide sociale, enfin sur les différentes assurances sociales et aides sociales qu'il peut y avoir. Alors, M. Gerber semble considérer comme normal que ça soit à l'État et puis donc aux entreprises et aux salariés de finalement financer ou de subventionner des emplois privés. Moi, je ne considère pas ça, mais je m'étonne un peu que d'un point de vue libéral, on puisse avoir cette position. Il faut quand même savoir qu'avec un salaire minimum à 4 000 francs, ça permettrait pour la VS d'encaisser 300 millions de francs supplémentaires, pour l'aide sociale, une économie d'environ 100 millions de francs par année, et puis ça sera environ 173 millions de francs de rentrée fiscale supplémentaire. Et puis j'ajoute, au niveau local, puisqu'on a parlé du canton du Jura, que ce ne sont pas une minorité de personnes qui sont concernées par ces aides. Dans le canton du Jura, c'est environ un ménage sur trois qui reçoit des subsides de caisse maladie. Donc à l'heure où on s'inquiète des finances cantonales, de l'état de la situation, eh bien moi je crois qu'on doit saluer cette initiative et puis dire ça permettra d'alléger certainement certaines charges, et je crois que c'est vraiment une solution qui permette non seulement de relancer certaines consommations, mais en plus de faire des économies sur les comptes publics.
Alors Jean-Frédéric Gerber, hein, c'est un des arguments finalement. Augmenter les salaires, ça améliore le pouvoir d'achat, ça favorise la consommation, et puis ça a des incidences pour faire marcher l'économie et créer des emplois. Donc est-ce que finalement l'introduction d'un salaire minimum, c'est pas une bonne chose ?
Mais écoutez, on a des exemples à l'étranger qui indiquent très clairement, parce que le modèle qui est choisi ici, c'est pas le modèle qui est préconisé dans les autres pays. L'Allemagne, par exemple, va certainement introduire un salaire minimum, mais en pourcentage du salaire médian, il sera bien inférieur. Nous, on a le reproche principal qu'on fait à l'initiative de l'Union syndicale, c'est de prendre comme référence et comme modèle le SMIC français, dont on sait les effets pervers qu'il a eu sur le marché de l'emploi, sur un certain nombre de personnes où rapidement le SMIC est devenu le standard en France, et c'est pas ça que je souhaite pour mon pays. On a plutôt un système, et M. Dobler l'a relevé, on a un niveau des salaires qui est tout à fait qui est tout à fait élevé. Peu de pays peuvent se targuer d'avoir un niveau des salaires élevé, quelles que soient les fourchettes de salaires qui sont versées. Donc on prend quand même un risque énorme avec ce type d'initiative. un petit peu extrémiste compte tenu du fait que, j'allais dire, elle fixe la barre trop haut pour un certain nombre de branches, et naturellement, il y aura des effets pervers.
Bon, je me dois quand même de réagir par rapport au SMIC français, parce qu'effectivement, on compare systématiquement au SMIC français. C'est d'ailleurs le seul salaire minimum et le seul exemple que les opposants sont capables de trouver pour dire que cela ne fonctionne pas. Je rejoins en partie M. Gerber sur ce constat-là, qu'en France, ça ne fonctionne pas. Mais il faut savoir pourquoi. En France, les gens qui sont au SMIC sont totalement exonérés de cotisations sociales. Donc les entreprises qui engagent des personnes qui sont au SMIC ne payent pas de cotisations sociales. Eh bien, forcément, quand on a ce genre de situation, on engage des gens au SMIC, on les laisse toute leur vie au SMIC, et puis on leur permet pas d'évoluer. Et puis, quant à la comparaison avec l'Allemagne, pays libéral qu'on cite tout partout en exemple, alors effectivement, le niveau du salaire prévu en Allemagne est beaucoup plus bas, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, avec les 4 000 francs, c'est environ 10% des salariés qui sont concernés, avec le salaire minimum qui est prévu en Allemagne, c'est plus de 16% des salariés qui sont concernés par ce salaire minimum. Donc je crois véritablement qu'aujourd'hui, on doit trouver une solution concrète pour, encore une fois, éradiquer la pauvreté de gens qui travaillent et qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, parce que ça, c'est purement inacceptable.
Alors on arrive déjà gentiment au terme de ce débat. Peut-être très rapidement pour conclure, une réaction, M. Gerber.
Oui, simplement en conclusion. Donc, par principe, on n'est pas opposé à l'instauration de salaires minimaux. Mais pour autant que ce soit négocié par les entreprises avec les partenaires sociaux en tenant compte des possibilités économiques réelles. L'initiative, malheureusement, a introduit une rigidité dont les effets économiques sont bien connus. On va remettre en cause aussi, et puis c'est l'une des grandes craintes qu'on a un petit peu, la capacité d'intégration dans le marché du travail, qui est un des marchés qui fonctionne le mieux dans le monde. Hein. Je vous rappelle quand même, on a un taux de chômage de 3% et on a une participation de la population active extrêmement élevée, hein, de la population en activité. Et puis, tel qu'il est proposé, ce salaire va totalement déresponsabiliser les partenaires sociaux.
Alors, merci à vous deux. On doit clore malheureusement les débats. Je suis navrée. Merci d'être venu en direct pour prendre part à ce débat. On rappelle à nos auditeurs que cette émission sera disponible dans l'après-midi en podcast sur nos sites internet rfjb.ch et rfj.ch. Merci à vous deux.
Merci.
Et merci à nos auditeurs pour l'écoute. Bon après-midi. Votation.